Le journal Le 13h, Sardi Lawan.
Mesdames, Messieurs, bienvenue au 13h. À la une de cette édition, Assemblée nationale, des projets de loi comme s'il en pleuvait, pas moins de 12 textes déjà sur la table des élus de la nation. Celui sur la fiscalité locale est particulièrement scruté par les collectivités territoriales décentralisées. C'est le propos du dossier du 13h. Synergies africaines contre le sida et les souffrances, déjà 22 années d'efforts et d'engagement envers les couches vulnérables. Ce 15 novembre est jour anniversaire. Sa présidente fondatrice, Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun, a délivré un message. La teneur, c'est dans le 13h. Et puis en sport football, c'est une rencontre qui comptera pour du beurre, déjà qualifié pour la CAN Maroc 2025. Le Cameroun affronte le Zimbabwe mardi à Yaoundé, mais les Lions restent tout de même au taquet, concentration de mise. Nous dirons nos reporters du service des sports dans le 13h. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi d'écouter le 13h. Le Parlement camerounais est donc en session ordinaire pour le compte du mois de novembre. Et ce matin, deux nouveaux projets de loi sont sur la table des députés. La séance plénière était dirigée par Mary Mouniali Meboka, l'un des vice-présidents de la Chambre. Les deux textes portent sur le projet de loi régissant la pêche et l'aquaculture au Cameroun et sur celui autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale et de l'Est. L'économie des deux textes avec vous, Pauline Deauville-Mendoza-Mbassi, en direct du palais des congrès de Yaoundé.
Le projet de loi régissant la pêche et l'aquaculture tend à abroger les dispositions relatives au secteur de la pêche contenues dans la loi de janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, une loi vieille de 30 ans. Le projet de texte en examen vise donc à corriger spécifiquement les insuffisances qui ont exposé notre pays à des sanctions infligées par l'Union européenne et les Émirats arabes unis, interdisant l'importation au sein de leur territoire des produits halieutiques camerounais. Comme motif avancé, le Cameroun pratique la pêche dite IN, une pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Par ailleurs, ce projet de texte s'inscrit dans un contexte mondial marqué notamment par les obligations de préservation de la biodiversité, de protection des droits d'usage des populations riveraines, de gestion durable, responsable et participative des écosystèmes. Ce texte se structure en 6 chapitres déclinés en 105 articles. Quant au projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, il s'inscrit dans le prolongement de la poursuite des objectifs de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Union africaine pour la coopération en matière de police criminelle entre les États de chacune des deux sous-régions. Son adoption est fondée sur la nécessité d'adapter la coopération en la matière aux réalités des parties et de tenir compte de la proximité géographique entre les deux sous-régions. L'accomplissement de cette formalité législative par les pays des parties permettra d'adopter une approche commune de lutte contre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme et l'extrémisme violent.
Il y a aussi le projet de loi régissant la protection civile. À travers le texte déposé au Sénat et à l'Assemblée nationale, le gouvernement envisage l'amélioration du cadre juridique général applicable à la protection civile et la gestion des catastrophes au Cameroun. Ibrahim Mohamed Abassi.
77 articles pour résumer la volonté du gouvernement de réorganiser la protection civile. Prétexte de ce changement, le Cameroun est confronté ces dernières années à de nombreuses catastrophes qui ont entraîné des dégâts humains et matériels. Les actions conduites sur le terrain par la protection civile n'ont pas toujours été rassurantes. Ces défaillances tiennent à l'obsolescence du cadre juridique et institutionnel qui encadre le secteur. La loi du 6 décembre 1986 portant réorganisation générale de la protection civile mise en place lors de la catastrophe du lac Nyos et le décret du 9 mars 1998 portant organisation de plans d'urgence et de secours en cas de catastrophe ou risque majeur sont devenus désuètes et inadaptés. De même, la protection civile logée au ministère de l'administration territoriale semble plus adaptée à la gestion opérationnelle des catastrophes. Conséquence des évolutions techniques et des changements climatiques. Ces projets de loi en examen à l'Assemblée nationale et au Sénat visent une meilleure structuration de la protection civile au Cameroun. Il s'agit de la mise en place d'un organisme public, l'Agence nationale de la protection civile, qui sera chargée d'assurer la mise en œuvre opérationnelle de la politique du gouvernement en matière de protection civile. Et les mécanismes de mise en place sont encadrés par ces projets de loi. Le plan national de contingence, placé sous l'autorité du ministre en charge de la protection civile, les plans régionaux de contingence, coordonnés par le gouverneur de région, les plans d'organisation de secours à l'échelle départementale et les plans de prévention des risques gérés au niveau des arrondissements. Ces projets de loi définissent ainsi le rôle de tous les intervenants en cas de catastrophe.
Parlons à présent d'un texte qui fait son petit bonhomme de chemin dans les couloirs et sous les lambris du palais des congrès de Yaoundé depuis le début de la semaine. Le projet de loi portant fiscalité locale est en examen au Parlement. Le texte comporte 152 articles et voudrait renforcer l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées. Julien Polongono.
La fiscalité constitue la source principale de revenus des collectivités territoriales décentralisées. Jusqu'à présent, l'essentiel des ressources de ces collectivités provient des concours de l'État. Mais le contexte économique mondial et national ambiant, marqué par la rareté des ressources, la persistance des crises sécuritaires et sanitaires dans certaines régions du pays et une inflation galopante, limite considérablement la capacité d'accompagnement des collectivités locales. Le projet portant fiscalité locale arrive donc à point nommé. Le texte permettra de renforcer l'autonomie financière des collectivités en vue de mieux répondre aux exigences de la loi portant code des collectivités territoriales décentralisées et de la stratégie nationale de développement, la SND 30. Il s'agit dans un premier temps d'alléger l'architecture existante pour rendre le mécanisme de financement très rentable. Le projet de loi présente les contre-performances en majorité liées à des insuffisances en matière de politique de l'administration fiscale. Et dans l'optique de pallier ces manquements, cette nouvelle législation se propose d'apporter des innovations majeures. On peut citer entre autres l'affectation aux régions de l'intégralité du produit du droit de timbre, de la carte grise et d'une quotité du produit de la taxe spéciale sur les produits pétroliers destinés à l'entretien routier. Voilà quelques-unes des innovation contenue dans ce projet de loi qui était très attendu par les parlementaires.
Texte très attendu, on l'a dit, et qui bien évidemment est suivi de près par les acteurs de la décentralisation. L'on se réjouit de ce que les collectivités territoriales décentralisées joueront d'une plus large autonomie financière. Oswald Médon.
S'il est une loi très attendue par les collectivités territoriales décentralisées, c'est bien celle portant fiscalité locale. Le dépôt du projet relatif à la Chambre basse du Parlement, à la faveur de la session ordinaire en cours, ne laisse pas indifférents les élus locaux. Simon-Pierre Idiba et Albert Anisseakwa, respectivement maire d'Obala, dans la région du centre, et Ngoulomakon, dans le sud.
Les CTD, notamment les communes, sont très heureuses de cette loi qui est déposée à l'Assemblée nationale.
Les objectifs qu'elle vise à atteindre sont des objectifs de développement.
C'est que le texte charrie l'espoir de lendemain florissant pour les CTD à travers une autonomisation plus accentuée.
Elle permettra de moderniser notre système fiscal local qui va donc donner beaucoup de marge de manœuvre aux CTD en leur accordant un peu plus d'autonomie financière et en apportant des outils de modernisation.
Et cela pourra permettre de doter les communes de ressources supplémentaires.
De quoi impacter positivement la vie des populations. Toutefois, l'essentiel sera aussi de préserver les acquis. Albert Anisseakwa, maire de Ngoulomakon.
Que les acquis des communes en matière de fiscalité soient maintenus, que les mécanismes que prévoit la loi, notamment en matière de transparence, de traçabilité, de digitalisation, soient effectifs. Et que le dispositif de mise à disposition des ressources à temps soit effectif.
En attendant le verdict final, la soumission du projet de loi aux députés est déjà un pas non négligeable pour le processus de décentralisation.
Ces jours anniversaires, ce 15 novembre pour Synergies africaines contre le sida et les souffrances, l'organisation non gouvernementale panafricaine créée par Mme Chantal Biya a 22 ans. Et pour marquer le coup, la première dame camerounaise, en sa qualité de présidente fondatrice, a publié un message. L'épouse du chef de l'État y réitère l'engagement pour son combat humanitaire en faveur des démunis contre le sida et les autres fléaux qui menacent le bien-être des couches vulnérables. Joseph Clément Ngba.
Plus qu'une tradition. Le message de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, a valeur d'engagement. Elle qui s'adonne, avec un enthousiasme non dissimulé, à défendre la cause des plus démunis. L'humanitaire chez Mme Chantal Biya est une seconde nature, une passion. 22 ans pour Synergies africaines, qui l'eût cru. Comme ses bougies d'anniversaire, la flamme allumée ce jour de novembre 2002 est toujours aussi vive. Tant les défis à surmonter sont aussi nombreux et la nécessité d'agir ensemble plus que jamais d'actualité. Dixit Mme Chantal Biya, qui lançait le 16 novembre 2002, aux côtés de ses sœurs Première Dame d'Afrique, Synergies africaines contre le sida et les souffrances, une plateforme de plaidoyer et d'action pour la santé et le bien-être de nos populations. Revisitant le tableau des souvenirs de novembre 2002, Mme Chantal Biya dresse l'heureux constat que Synergies africaines a pleinement joué sa partition. En ma qualité de présidente fondatrice, ajoute-t-elle, je suis particulièrement fier de la chaîne de solidarité agissante que nous avons su créer. Ensemble, nous avons pu accomplir des progrès significatifs dans la lutte contre le VIH-SIDA, mener des actions décisives en faveur de la promotion des droits des femmes, dans la promotion de la santé maternelle et infantile. Des progrès, mais aussi des lauriers engrangés pour l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale. Le 1er juin 2015, Mme Chantal Biya reçoit la distinction d'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. C'est au Palais de l'Unité. Prenant part à cette cérémonie sobre, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, soulignait sa détermination et celle du gouvernement à poursuivre la lutte contre le sida. Dans son message, Mme Chantal Biya lui rend un hommage exceptionnellement appuyé. 2030 est l'année butoir d'éradication du VIH-SIDA. À 6 ans de cette échéance, fixée par les Nations Unies comme fin du sida en tant qu'urgence de santé publique internationale, le message de Mme Chantal Biya est un ultime cri d'alarme, un signal fort qu'il ne faut pas baisser la garde en ce moment. Nous devons continuer le combat, conclut-elle.
La journée mondiale du diabète prévue jeudi joue les prolongations au sein de l'hôpital de la Cité Verte ici à Yaoundé, notamment avec une campagne de dépistage gratuite et des sessions de counseling très appréciées du reste par des malades rencontrés par Viviane Foll.
Le diabète est une sale maladie.
Cela fait 5 ans que Papa Rigobert, 58 ans, est diabétique. 5 années durant lesquelles le commerçant quinquagénaire, jadis plein de vie, a dû accepter l'évidence, celle du poids de la maladie.
Chaque fois quand vous sentez mal sur le pied, ça chauffe, ça glace. Et aussi l'obésité, la fatigue, ça qui cause vraiment le diabète et ça dérange.
Comme Papa Rigobert, ils sont nombreux depuis hier à la campagne de dépistage et de sensibilisation organisée à l'hôpital de la Cité Verte. C'est également l'occasion pour les professionnels de la santé de prodiguer des conseils sur cette maladie en nette croissance au Cameroun. Docteur Biolessida Gislaine, endocrinologue, diabétologue à l'hôpital de la Cité Verte.
Chaque individu doit s'informer sur son statut, s'il est diabétique ou pas, si on est en surpoids ou si on est hypertendu. Contrôler la glycémie de manière régulière, améliorer la qualité de vie, avoir une alimentation saine et équilibrée et une activité physique régulière.
Vivre normalement avec le diabète, c'est possible, mais le mieux serait de l'éviter en adoptant une bonne hygiène de vie.
13h passées de 14 minutes sur les antennes du poste national de la CRTV, le rapport semestriel des perspectives économiques régionales est plutôt optimiste au sujet des pays de l'Afrique subsaharienne. Reprise du commerce extérieur, contrôle de l'inflation, de bons points dévoilés ce matin à Yaoundé en présence des représentants du Fonds monétaire international, d'autres partenaires techniques et financiers du Cameroun installés aux côtés du ministre délégué et du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Nous retrouvons Marie-Maudine Bozor du côté du Hilton Hotel pour les détails.
Entre réforme et grande espérance, ce sont les mots-clés du rapport du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques régionales Afrique subsaharienne. Le document présenté en présence des partenaires techniques et financiers montre que les pays de la région essaient de mener à bien les réformes nécessaires pour rétablir la stabilité macroéconomique, même si des chocs de divers ordres mettent à mal les politiques engagées. En ouvrant la présentation du rapport, le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, a révélé quelques données macroéconomiques du Cameroun, dont le taux d'inflation ramené à 5,8% au premier semestre 2024, la croissance du produit intérieur brut située à 3,6% et bien d'autres embellis encore. La situation au niveau de la région subsaharienne, tout comme en Afrique centrale, n'est pas loin de ce tableau qui redonne de l'espoir. Dans l'ensemble, les déséquilibres intérieurs et extérieurs se résorbent sous l'effet des ajustements des politiques économiques, l'inflation ralentit, le ratio moyen dette est stabilisé grâce au rééquilibre budgétaire. Mais comme révèle le rapport, tout ceci est bien fragile et se fait dans un environnement complexe. La croissance régionale projetée à 3,6% est encore trop faible pour impulser le développement. Les conditions de financement restent restrictives et avec des taux d'intérêt trop élevés. Ajoutez à cela les frustrations sociales avec un manque d'inclusion et d'opportunités d'emploi ainsi qu'une mauvaise gouvernance. Hilton Hôtel, Marie-Monique Mbozo, SIA TV.
AgriTech Innovation Challenge, le grand concours national des solutions digitales innovantes dans le secteur agropastoral, a ses finalistes. Il s'agit de 20 startups dont les 10 meilleurs vont bénéficier de l'accompagnement pour la maturation et la rentabilité de ces projets. La finale de l'AgriTech Innovation Challenge se déroule en ce moment même ici à Yaoundé. Les ministres des Postes et Télécommunications, de l'Emploi et de la Profession et de la Formation professionnelle et de l'élevage sont présents à cette cérémonie. Nous y reviendrons dans notre édition du 17-18. Ce communiqué, le ministre des Finances porte à la connaissance des contribuables relevant du régime fiscal des organismes à but non lucratif qu'en application de l'acte uniforme de l'OADA relatif au système comptable des entités à but non lucratif, la Direction générale des impôts, en partenariat avec les ordres nationaux compétents en matière de comptabilité et de fiscalité, a mis en place de nouveaux modèles de déclaration statistique et fiscale spécifiques au OBNL. Ces nouveaux formulaires sont dès à présent accessibles sur la plateforme en ligne de l'administration fiscale à l'adresse suivante www.impots.cm. En vue de faciliter le respect des échéances fiscales, le ministre des Finances invite l'ensemble des OBNL à procéder à la soumission de leur déclaration fiscale pour l'exercice 2023 au plus tard le 31 décembre 2024 via la dite plateforme. De plus, le ministre informe le public que l'administration fiscale poursuit activement les sessions de formation dédiées à l'utilisation de ces nouveaux modèles de DSF. Il encourage vivement les OBNL à se rapprocher de leur centre des impôts de rattachement pour toute demande d'assistance ou pour obtenir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Le ministre des Finances réaffirme son engagement à soutenir les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et compte sur le civisme de tous. À présent, ce fait divers, drame au quartier Makea, c'est à Douala. Martin Valérie René Michel, une Française âgée de 60 ans, est décédée hier, la nuit dernière plutôt, des suites de blessures après avoir été victime d'une agression à l'arme blanche alors qu'elle sortait d'un dîner au restaurant. Information confirmée dans un message du consul général de France à Douala, Jean-Charles Ledo. Les opérations de bouclage des forces de sécurité prescrites par le gouverneur du littoral ont déjà permis d'interpeller 6 premiers suspects et les enquêtes se poursuivent pour mettre hors d'état de nuire les 4 autres présumés suspects en cavale. Je vous propose d'écouter à ce sujet le gouverneur Samuel Dieudonné Ivar Dibois dans cet extrait de déclaration captée par Brigitte Mbosé de CIAC TV Littoral.
Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2024, autour de 22h sur la voie publique du quartier Makea, s'est produite une agression consistant d'un vol aggravé en coaction à l'aide d'armes blanches suivies des coups mortels sur Dame Martin Valérie René Michel. La victime qui a succombé à ses blessures est de nationalité française, âgée de 60 ans. La nommée Martin Valérie René Michel succombera par la suite de ses blessures à l'hôpital La Quintini de Douala. Une fois alertée, nos forces de l'ordre organiseront une battue qui, à ce jour, a permis d'interpeller, avec la collaboration des populations du quartier, 6 suspects qui sont passés aux aveux. La situation est sous contrôle, mais que tous ceux qui s'apprêtent à commettre d'autres assassinats se ravisent qu'ils seront toujours pris parce que la collaboration est franche avec nos populations. Et nous tenons une fois de plus à dire que cette ville est une ville où les uns et les autres doivent mener leurs activités en toute quiétude.
Vous venez d'écouter là le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dipoua du littoral sur ce malheureux fait divers survenu la nuit dernière au quartier Makia, c'est à Douala. À présent, autre chose, avec la nécessité de rester présent à son poste de travail ou du moins à ne pas trop s'en éloigner, les travailleurs sont en quête de ravitaillement. La restauration en milieu professionnel est donc un phénomène qui se répand. Beaucoup se ruent vers les barbecues de fortune qui foisonnent en bordure de route et surtout devant les débits de boissons. Dès que sonnent les heures de pause, poissons, poulets, porc et autres viandes à la braise, des mets particulièrement prisés, comme vous allez le constater dans ce reportage de Yolande Melono.
Le poisson, c'est combien ?
Donne-moi un peu, c'est une pochette là.
Fini la classique pause café au bureau. Désormais, nombre de travailleurs optent pour des grillades de porc, de poulet, de bœuf et de poisson proposés sur des barbecues de fortune, installés ça et là dans nos rues et principalement devant les débits de boissons.
Là, c'est le poisson de 1500. Et je suis vraiment satisfait. Et c'est bien assaisonné.
Les morceaux varient 750, 800, 900. Je ne vais pas dire que c'est moins cher. En fait, comment on n'a pas le choix. Quand c'est bon, on se sacrifie, on mange.
Pour fidéliser la clientèle croissante, les commerçants attachent du prix aux mesures d'hygiène.
Parce que quand quelqu'un vient pour boire, manger, il est obligé de boire. Sans eux, nous, on ne vend pas.
L'eau est potable, puisque elle se puise à la maison. Il y a un robinet. Le four se nettoie chaque fin de semaine. La route est toujours balayée.
Dégouiller d'abord le piment.
Nous sommes obligés de prendre un plastique.
Des précautions souvent insuffisantes ou inexistantes dans certains points de vente. Pourtant, les amateurs de viande braisée ne renoncent pas à leur régal malgré les risques.
Dans les pages culture de cette fin de semaine de la littérature et de la musique, concert inédit samedi à la chefferie Bakoko de Douala avec l'exécution d'une danse guerrière Bamileke. C'est le prolongement du DOMAF, le Douala Music Art Festival, qui s'achève dimanche. Christelle Boudjeka déroule pour nous l'affiche culturelle du week-end.
Concert de musique à la chefferie Bakoko de Douala. Rendez-vous samedi 16 novembre 2024 à 14h pour vivre le Pomejon, une danse guerrière Bamungum. Cette communauté Bamileke rajoute du brillant au DOMAF, le Douala Art Music Festival, qui se déroule simultanément au stade annexe de Bonamoussadi jusqu'à dimanche. C'est une tribune d'expression des talents de la musique urbaine. En littérature, les éditions du Midi présentent le livre « Le Nsané, la chasse traditionnelle au feu de brousse ». 30 personnages meublent la pièce théâtrale écrite par Achille Saïd.
La chasse dans nos villages se faisait en groupe et en forêt et à base du feu de brousse. J'essaie de soulever une problématique, la succession à la chefferie traditionnelle chez les Bantous. J'ai créé une région imaginaire, la région Médonlon, et un village imaginaire, Guiawa. On peut les situer entre l'est et le centre du Cameroun.
Cette quatrième sortie de l'écrivain sera présentée ce 15 novembre au camp Yeyap de Yaoundé, première escale de la tournée régionale. Bon week-end.
La petite musique qui annonce la page des sports, football, la première édition du trophée des champions se dispute cet après-midi à 17h au stade militaire de Yaoundé. Champion en titre, et Boulevard Football Club joue contre l'équipe football fille, vainqueur de la Coupe du Cameroun. Les deux formations partent ainsi à la quête d'un autre trophée. Didier Marusitundi.
Après une saison pleine où la rivalité était permanente, les deux formations se retrouvent pour un autre titre. Stéphane Jana, entraîneur principal de l'équipe football fille.
Nous n'aurons pas raison de redouter l'adversaire. Nous nous préparons comme toutes les équipes qui doivent jouer un grand match. Donc nous comptons sur nos forces. Nous nous battons pour que l'équipe ne baisse pas d'un cran.
Le groupe reste soudé et serein malgré quelques départs. Raïs Sambolet, capitaine de l'équipe.
D'abord un match revanchard parce que c'est une rencontre qui est toujours difficile pour nous. On doit vraiment être costaud.
L'adversité s'annonce rude. Geneviève Ngonombala, capitaine de FC Boulova.
Un match contre l'équipe, ça a toujours été très électrique. Mais l'équipe n'est pas une foule de guerre. Nous préparons bien ce match. Nous allons le jouer.
L'équipe travaille pour une victoire finale. Valentine Nguélé, entraîneur.
On essaie de travailler avec les qualités des filles. On essaie de mettre en place un système de jeu qui va aller avec ces qualités. Maintenant, individuellement, on peut les booster, les motiver d'une certaine manière.
La saison 5 de la Guinness Super League s'ouvre ainsi par cette finale du Trophée des Champions cet après-midi dès 17h.
Toujours en football, Cameroun contre Zimbabwe. Rendez-vous dans 4 jours exactement au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour le compte des éliminatoires de la 6e et dernière journée de la CAN Maroc 2025. Mais déjà ce vendredi, le Zimbabwe croise le Kenya, son adversaire direct, dans la conquête de la 2e place du groupe J. Côté Lions indomptables, la préparation gagne en intensité depuis hier à Yaoundé. Samuel Billon.
Repos actif, récupération et surtout enchaînement des séances d'entraînement, les Lions indomptables se préparent à la communion avec leur public mardi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Objectif, terminer la phase de groupe des éliminatoires à la CAN Maroc 2025 en beauté. De la motivation, un état d'esprit de guerrier, soutien et créativité sur le plan offensif, le staff technique analyse le style zimbabwéen dans les moindres détails. Marc Brice, entraîneur sélection national.
Ils vont très fin pour gagner des matchs, c'est leur fierté. On a 4 jours pour entraîner, pour être prêt, pour connaître le système de l'adversaire, pour trouver leurs points faibles, mais aussi connaître leurs points forts. Et surtout pour nous, pour entrer dans notre automatisme.
Fitness en matinée, séance d'entraînement complète à huis clos à partir de 17h au stade Omnisport ce vendredi. Le groupe tend à améliorer ses valeurs, force, puissance, habileté et créativité pour assurer le parfait équilibre du bloc équipe devant le Zimbabwe dont la dernière victoire contre le Cameroun remonte au 22 janvier 1995, alors que le bilan des confrontations directes affiche 6 victoires, 1 nul et 3 défaites en faveur des Lions indomptables.
Football côté court, les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football sont réunis en session ordinaire depuis ce matin au centre d'excellence de Mbankomo, ici à Yaoundé. Les travaux ouverts par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, sont préparatoires à l'Assemblée générale prévue ce samedi. Entre autres sujets en débat, la relance des championnats nationaux amateurs et d'élite de football, le bilan des activités et le chronogramme de la prochaine saison, la question de l'équipementier des sélections nationales. Et puis en cyclisme, la course nationale VTT Chantal Biya se prépare activement. Les préparatifs s'accélèrent d'ailleurs du côté de Bagofit, c'est dans la région de l'Est et c'est le lieu de l'événement. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre afin de rendre cet événement donc désormais international, plus attractif avec l'annonce de la présence de plusieurs équipes étrangères. Les détails avec Ariel Olivier-Azoua.
Une équipe française et une équipe de la République centrafricaine ont déjà annoncé leur présence à la 2e édition de la course nationale VTT Chantal Biya qui va se courir à Bagofit. Ainsi se concrétise l'internationalisation de cette compétition. Une mission technique de la Fédération camerounaise de cyclisme était encore ce jeudi sur le lieu de l'événement, conduite par le directeur technique Joseph Evouna, ayant pour guide le promoteur Joseph Lé. Elle avait pour objectif la reconnaissance de la piste cyclable. Jean-Baptiste Biaillé, directeur de la communication à la Fédération camerounaise de cyclisme.
C'est une reconnaissance minutieuse et complète de la piste cyclable de 12 km que devront parcourir les cyclistes de VTT dans les catégories Master 1, Master 2, des catégories élite, des dames, ainsi que de la catégorie prestige.
À la Fédération camerounaise de cyclisme, on annonce la mise en place d'une équipe nationale espoir et l'organisation d'une cérémonie de vélo d'or et une course Kérine. En marge de cette course, d'autres activités vont également voir le jour.
Des activités sportives, culturelles, artistiques également et une foire exposition.
En moins de 2 semaines, les choses se précisent pour cette 2e édition qui se veut une réussite totale.
À présent, le condensé de toutes ces nouvelles en anglaise avec Patience Wingo. Good afternoon.
Good afternoon.
Two additional bills have been presented for consideration by members of the National Assembly. One bill aims to establish rules and regulations governing fisheries and agriculture in Cameroon, while the other seeks to authorize the President of the Republic to ratify an agreement on criminal police cooperation between Central and East African states. Meanwhile, the Foreign Affairs Committee of the National Assembly, led by Honorable Banmi Emmanuel, is currently conducting a thorough review of four other bills related to international cooperation, which were submitted earlier this week by the executive. The First Lady of Cameroon has reaffirmed her commitment to supporting and advocating for those living with HIV and AIDS as the Pan-African organization African Synergy Against AIDS and Suffering celebrates its 22nd anniversary. In a statement issued on the occasion, Mrs. Chantal Biere has expressed her gratitude to her fellow African First Ladies, with whom she co-founded African Synergy on November 16, 2002. She also thanked the experts, partners, and stakeholders whose invaluable support has enabled the organization to make significant progress in the fight against HIV and AIDS. The International Monetary Fund, IMF, has released its 2024 Regional Economic Outlook for the Sub-Saharan Africa today in Yaoundé. The report highlights that Cameroon, like other countries in the sub-region, must address macroeconomic imbalances to prevent exacerbating vulnerabilities that could hinder growth. The report also discusses necessary reforms, noting that while growth rates for most sub-Saharan African countries are expected to slow down in 2025, Cameroon's current growth rate, around 4%, is projected to remain stable. This stability is attributed to controlled inflation and the commissioning of the Nachtigal hydroelectric power plant, and 10 innovative startups focused on digital solutions for agriculture, livestock fishing, and climate adaptation have been named winners of the 2024 AgriTech Innovation Challenge. Each winner will receive approximately 40 million CFA francs to scale up their transformative project. The award ceremony in Yaoundé was attended by key government officials, including the Ministers of Post and Telecommunications, Employment and Vocational Training, and Livestock, Fisheries and Animal Industries. And in sports, Guinness Women's Super League champions FC Ebolova and Cup of Cameroon winners Lekie Fee will at 5 p.m. battle for the first ever Women's Super Cup title. The highly anticipated match that will take place at the Nwaikele Stadium will be the third meeting between the two clubs this season.
L'actualité de ce vendredi, c'est au Parlement avec des projets de loi qui continuent d'être déposés. Pas moins de 12 textes déjà sur la table des élus de la nation, notamment celui sur la fiscalité locale, particulièrement scruté par les collectivités territoriales décentralisées. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir écouté. Bonne suite des programmes sur les antennes du Poste national de la CRTV.